Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde. Bienvenue à Radio Free Gaza pour l'épisode numéro 26. Aujourd'hui, nous aurons bien sûr un participant de la délégation belge à la flottille mondiale du Soumout et un entretien aujourd'hui avec Astrid Jamar qui va nous parler de colonialisme, décolonialisme et les accords de paix. Voilà. Mais pour commencer, on va appeler Navit qui se trouve sur un bateau en Méditerranée. Allô, bonjour Navit.
Vous allez bien? Je m'entends bien?
Je t'entends pas très très bien, mais ça passe.
Attends. J'ai mis un micro spécial là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô?
Oui, allô Navit.
Ah pardon, excuse-moi, je n'avais pas de problème. Tout va bien de votre côté?
Oui, tout va bien. Je suis ici au studio avec Astrid et Julie. Et ça se passe très bien. Et comment ça va avec toi et avec ton bateau?
Aujourd'hui, hein, il y a deux jours, vous avez eu des nouvelles. On s'est fait bombarder par des drones. C'était une nuit assez compliquée. On savait que ça allait arriver, donc on était préparés. C'est vrai que ça fait. Bon, voilà, ça y est, quoi. On est dans la zone dangereuse et ça commence. Quoi. On a eu la chance hier soir. De se mettre dans les eaux nationales grecques au large de la traite. Et donc, ça nous a assuré une protection malgré les menaces d'attaques encore plus violentes par Israël. On a passé une très calme, finalement. Alors, on était aux aguets, hein, on a quand même passé la nuit à survivre, mais il ne s'est rien passé. Et ça, vraiment, c'est le résultat de la mobilisation et de la pression politique à travers le monde. Les lettres, les mails et les téléphones passés au ministère des Affaires étrangères de la droite. Et évidemment, du coup, l'annonce de l'Italie et maintenant de l'Espagne qui envoie un navire pour nous accompagner, nous escorter.
Je ne sais pas, il y a un autre bruit en fait sur la ligne, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, c'est un bruit de vibration?
Ouais, peut-être.
Là, c'est le bateau.
Ah! Ok. Alors il faudra faire
avec. C'est le vent qui peut ouvrir l'une des pièces du bateau en revenant.
Donc, si j'ai bien compris, il y a eu. Enfin, j'ai entendu aussi à gauche et à droite qu'en fait, plusieurs pays ont averti leurs ressortissants dans la flottille qu'ils avaient reçu des nouvelles des autorités israéliennes. Qu'ils étaient prêts à rentrer dans l'art, en fait, et être beaucoup plus violents et attaquer la flottille. Et c'est pour ça, en fait, que la flottille s'est mise un peu à l'abri dans les eaux territoriales de la Grèce, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et en fait, bon, bah, les appels qu'ont reçus nos camarades de leurs ambassades respectives, de leurs états respectifs, il ne faut pas le voir comme un soutien de leur pays, il faut le voir comme une feuille de. Une tentative de pression de leur pays qui est mise sous pression de son côté par Israël. Et donc, moi, comme mon numéro de téléphone n'est pas actif, peut-être qu'ils ont fait m'appeler, j'en sais rien. Je sais que c'est surtout du côté des Allemands qu'ils ont reçu des appels, ce qui n'est pas étonnant vu la complicité profonde entre l'Allemagne et l'Israël. Et c'est plus des tentatives d'intimidation que vraiment un avertissement pour aider, quoi.
Oui. Maintenant, il y a eu une conférence de presse de la flottille. Oui. Ça ne nous a pas vraiment appris grand-chose. Donc, en fait, je suis curieux de savoir. Donc, tout le monde continue maintenant. Qu'est-ce que la flottille fait maintenant? Où il y a des bateaux qui restent derrière? Où tout le monde continue ensemble?
Écoute, je ne sais pas ce que je suis déjà autorisé à dire en public. Donc, okay. si la conférence ne s'est pas prononcée dessus, je ne vais pas me prononcer dessus non plus.
Oui, je comprends. Voilà. Bien. Ok.
Désolé.
Non, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Ben, écoute, entre-temps, ici à Bruxelles, donc hier, comme tu sais probablement, il y a une délégation qui a été reçue au ministère des Affaires étrangères. Ça n'a pas donné énormément et du coup, ça a été décidé de dorénavant, tous les jours, faire un rassemblement devant le ministère à 17h30.
Okay, incroyable.
Ouais. Donc parce qu'on va continuer de mettre la pression sur le gouvernement belge.
Oui, moi j'ai vu la manifestation hier. J'ai des amis qui étaient là, mes parents étaient là, des camarades qui étaient là. Ils ont même mis en vidéo pour la manifestation en live. C'était vraiment très important. J'avais pas compris que ça allait se faire tous les jours. Donc très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Mais on va en avoir besoin, je pense. Hein. On est quand même l'un des pays à la traîne. Là, il y a eu la reconnaissance de la Palestine, même par la France et par le Royaume-Uni. Alors, on sait que c'est une reconnaissance qui est très, très vive de sens. On sait que c'est une reconnaissance qui n'a absolument rien de concret. Mais même ça, même ce truc symbolique, la Belgique a refusé de le faire. Et on va vraiment avoir besoin, on va pouvoir continuer la lutte. Parce qu'en fait, le gouvernement arizona, il est en train de mener la guerre en interne, mais il est en train de soutenir des guerres en externe. On va devoir faire contre le gouvernement.
Oui, bien sûr. Ok, Navid, donc voilà. Pardon ?
On profite nous ici de, je pense, des derniers moments un peu calmes. On sait qu'une fois qu'on va être parti de Crète, on sait que là, voilà, ça va être la zone la plus dangereuse. Quoi.
Oui.
On sait qu'on est en train de vivre probablement nos derniers moments apaisés. Et nos dernières minutes, parce qu'après, ça va être
costaud. Oui, alors, reposez-vous bien. Nous
Merci
sommes
beaucoup.
Avec vous, hein, jour et nuit, franchement, oui. Littéralement.
Merci. Hâte de vous revoir, mon toi.
Ouais. Et merci beaucoup, Navité, à bientôt.
Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne après-midi.
Au revoir. Donc nous continuons avec notre entretien de la journée. Aujourd'hui, nous avons Astrid Jamar qui est ici avec nous au studio. C'est plutôt exceptionnel. Généralement, on enregistre à l'avance, mais voilà. C'est très, très bien. Astrid, est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et merci d'organiser ces émissions depuis le début de la flottille. Donc je suis une chercheuse universitaire qui travaille essentiellement sur les questions de la paix à partir de perspectives féministes décoloniales basées à l'Université d'Anvers. Et je fais aussi partie du réseau interuniversitaire belge pour la Palestine. Et je suis aussi activement impliquée dans la délégation belge de la flottille.
Oui. Voilà. Ben, tantôt, je regardais sur le site Al Jazeera. Et où on parle, notamment il y a un commentaire de Martin Griffiths, qui est le directeur du groupe de médiation internationale et qui a travaillé pour les Nations Unies, que c'est un peu bizarre que, apparemment, pour la proposition des États-Unis, le point en 21 points, le plan en 21 points qui a été établi par Steve Witkoff, que apparemment, on n'a pas du tout consulté les Palestiniens. Donc, on essaie de mettre en place un plan de paix ou un début de plan de paix sans même consulter les personnes qui sont les plus concernées. C'est quand même frappant. Et qu'est-ce que ça te dit, en fait, Astrid, ce genre de proposition?
Oui, mais en fait, je pense que pour quelqu'un qui travaille sur les processus depuis presque 20 ans, c'est quelque chose qui n'est absolument pas étonnant. Ce qui est particulier dans le domaine, c'est que ça ne fait pas plus de 15 ans qu'il est considéré normal qu'il y ait un consensus au sein de la discipline et au sein des processus de médiation, qu'un processus de médiation devrait intégrer également une population civile ou des acteurs civils et pas uniquement un gouvernement et les personnes impliquées dans un conflit armé. Mais donc, je pense que cette situation, elle me fait penser à un des enjeux principaux de ma recherche qui est centré autour du concept de la colonialité de la paix. Donc, je pense que depuis le contexte BLM, donc Black Lives Matter, qui a démarré aux États-Unis, mais qui est aussi très présent en Europe et en Belgique, les questions coloniales et décoloniales sont au centre de beaucoup de débats publics. Et au sein des débats qui sont beaucoup plus... qui ont une beaucoup plus longue histoire, donc comment se délier de cette histoire coloniale, il y a le mot colonialité. Et donc, le mot colonialité est super important pour montrer comment la violence coloniale continue de se reproduire de certaines manières aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas juste un problème du passé où il faut mieux comprendre le passé, c'est il faut comprendre comment la violence ou comment le pouvoir reproduit des modes de gouvernance liés à l'histoire coloniale, à la violence coloniale. Et ça a un impact énorme sur les organisations sociales ou la production des connaissances, aussi bien dans les pays colonisateurs que dans les pays qui ont été colonisés. Et donc, un exemple très concret, historique, de la colonialité de la paix, c'est la trajectoire et l'expérience politique, ou l'expérience, c'est pas le bon mot, mais la trajectoire derrière les discours de pacification et les discours de réconciliation. Et là, je pense par exemple aux travaux de l'historienne américaine Benton, qui a écrit un livre qui s'appelle « They Called It Peace ». Donc, ils ont appelé cela « la paix » qui a été publié l'an dernier et qui montre comment ce qui a été appelé « la paix » pendant les premières incursions sur le nord, ce qui est appelé aujourd'hui le nord de l'Amérique, on parle de paix pour les campagnes de pacification après les massacres ou après les rafles de violence pour imposer la violence coloniale. Donc, je vais laisser la question là, je pense. Je laisse le point là et je vous conseille de lire le livre pour comprendre comment ça s'applique historiquement. Et je te laisse poser la question suivante.
Oui, mais est-ce que tu as un exemple concret de ces mécanismes?
Mais je pense qu'un exemple assez particulier et qui est assez central dans ma recherche à moi, qui porte plutôt sur le Burundi, c'est la colonialité du processus de paix et l'impact de cette colonialité dans le rôle de la médiation de la Belgique. Donc le processus de paix au Burundi culmine par, ou en tout cas un des moments importants du processus de paix burundais est la signature de l'accord de paix, les accords de paix d'Arusha en 2000. Et donc à cette époque-là, le médiateur principal, c'est Nelson Mandela, et un des observateurs important, ou en tout cas en anglais on dit third party, j'ai oublié le mot en français, les parties tiers qui accompagnent aussi bien la médiation que les parties en médiation, donc qui ont un rôle parallèle mais assez important dans les discussions sur la table de négociation, c'est le rôle de Louis Michel. Donc Louis Michel, je veux dire, on a souvent une association positive par rapport à son rôle de la médiation. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est comment son rôle, en fait, est aussi impliqué dans l'effacement du rôle de la Belgique dans la situation politique et la trajectoire politique du Burundi. Donc, dans un des derniers drafts, quelques jours avant la signature, il était prévu que l'accord d'Arusha que stipule que la Belgique est responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore en 1961, qui est le leader du mouvement décolonial et le premier ministre du Burundi. Louis Michel, à l'époque, qui est le premier ministre de la Belgique, demande que cette disposition soit retirée au projet. Il fait part de cette demande à Nelson Mandela. Nelson Mandela a soumis cette demande aux parties burundaises. Les parties burundaises refusent. Et malgré tout, Nelson Mandela se dit « mais en fait, le Burundi aura besoin des financements belges pour mettre en œuvre ces réformes ambitieuses qui sont formulées dans les accords » et donc unilatéralement décide de retirer la responsabilité de la Belgique dans la section sur la violence coloniale de l'accord de paix. Donc c'est un exemple concret qui est fort lié à la trajectoire de la Belgique et qui remet un peu en évidence le fait que les choses ne sont pas nécessairement binaires à quelque chose de noir et blanc entre paix et conflit, mais que les enjeux politiques sont beaucoup plus imbriqués et que la question de la violence peut aussi être quelque chose qui est caché derrière des discours pacificateurs ou qui est aussi une manière d'effacer certaines formes de violence coloniale.
Oui. Dans le contexte de la Palestine, je me souviens des accords d'Oslo. Enfin, tout le monde se souvient de ça, ou beaucoup de gens en tout cas. Ce qui est frappant, c'est que comment... jusqu'où les Palestiniens, ou en tout cas l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, ont été prêts à aller pour aller vers une paix. Notamment, ils ont baissé les armes et il y a donc plein d'accords. Et ils se sont engagés dans un processus qui allait arriver à une solution des deux États. Aujourd'hui, on revient complètement avec ça. Mais quand on voit comment ça a été implémenté à ce moment-là et dans les années après, en fait, on a quelque part entériné la discrimination, l'apartheid qui existait déjà par rapport aux accès aux sources. Et en fait, on a un peu bétonné des choses qui... En fait, le colonialisme en pratique sur les territoires de la Palestine, on l'a consolidé et entériné dans un accord de paix. Et on a imaginé que ça allait quand même arriver à quelque chose, parce qu'il faut forcément un État. Et c'est quelque chose que je me demande et que beaucoup de gens me demandent et beaucoup de gens avec qui on a parlé les dernières semaines. Notre émission se demande aussi ce mirage d'une solution à deux États, tout en disant qu'on ne va surtout pas discuter avec la Hamas. Ça paraît déjà hautement symbolique, mais aussi pratiquement, comment est-ce qu'on peut baser une paix sur une situation qui est... Et on a déjà eu l'expérience... D'une paix qui est installée, qui est imposée, qui ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer en fait une paix aujourd'hui sans même discuter avec les Palestiniens?
Oui, mais donc historiquement, pour certains, donc si on revient sur la trajectoire et comment on comprend cette idée de la colonialité de la paix est quelque chose de différent. Qu'est-ce que je veux dire, c'est un mot qui a l'air de donner un consensus, mais en fait qui est très ambigu. Et qui, historiquement, par les Occidentaux, est quelque chose qui est fort discuté dans les débats académiques sur la paix comme une forme de mission civilisatrice, où c'est systématiquement les Occidentaux, les hommes en cravate élus par nos gouvernements, les représentants des gouvernements, les représentants des organisations internationales et les experts formés en Occident qui sont déployés pour aider les... femmes et les enfants des pays du Sud. Et donc là, je mets énormément de guillemets qui ne se voient pas pendant que je parle, mais que je montre bien avec mes doigts, pour aller sauver donc ces hommes et ces femmes et ces enfants, des hommes violents du Sud. Et tout, tout ça, c'est un exemple. Je veux dire, il y a, si on regarde tous les conflits où il y a un rôle important des Nations Unies et où des missions de médiation envoyées, c'est presque systématiquement ce schéma qui reproduit en fait une vision raciste du monde où l'Occident est systématiquement représenté comme un sauveur et les pays du Sud sont systématiquement représentés comme des espaces violents qu'il faut aller sauver. Et tout ça en effaçant la violence coloniale qui crée la violence qui a été infligée au cours des derniers siècles et qui continue de l'être, comme on le voit aujourd'hui en Palestine, comme on le voit au Congo, comme on le voit en Amérique latine. Et donc c'est pour ça que il y a énormément de choses à pouvoir lire sur les sujets. Et on peut peut-être mettre quelques suggestions sur le site, dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Mais donc il y a des milliers d'exemples de cette colonialité de la paix et qui, malheureusement, un des exemples les plus illustrateurs aujourd'hui, c'est le génocide qui est en train d'avoir lieu à Gaza, où l'Europe et l'Occident veulent se présenter comme une solution, alors que historiquement, c'est quand même les accords de Balfour qui créent le problème et qui donnent une carte blanche pour un système colonial qui devient de plus en plus violent jusqu'à l'extermination du peuple palestinien en 2025, mais qui a commencé depuis bien longtemps.
Mais alors, comment pourrait-on imaginer une autre façon d'aller vers un processus de paix? Par exemple, le rôle que le Qatar joue aujourd'hui dans le monde arabe, que le Qatar essaye de jouer dans le conflit entre l'Israël et les Palestiniens, est-ce qu'il y a une rupture de style, une rupture de logique, ou est-ce qu'ils reproduisent aussi le même schéma?
Mais il y a énormément de points de discussion possibles sur cette question super intéressante, merci. Mais je pense que le fait qu'on est ici et qu'on est ici pour faire écho à la Global Summit Fotila montre bien qu'en fait, finalement, c'est les mouvements civils activistes qui parfois apportent beaucoup plus de solutions et qui font pression, qui sont beaucoup plus significatives et que les démarches institutionnelles ou les personnes qui vivent les conflits, qui ont grandi dans les espaces fort influencés par des processus de paix bureaucratiques, technocratiques, occidentaux, n'attendent rien de ces espaces-là. Donc les espaces activistes de paix digne et juste, ou de paix qui respectent la dignité et l'humanité des personnes affectées par cette violence, ils sont déjà là. Je veux dire, il y a énormément de différents mouvements, que ce soit au Moyen-Orient, en Palestine elle-même, pour mettre en avant des autres formes de paix.
Mais alors, il faut leur donner la place aussi. Parce que ces initiatives existent en Palestine comme en Israël. Il y a des espaces où les gens se rencontrent. Aussi, les Palestiniens et des Israéliens juifs se rencontrent. Mais ce sont des initiatives qui sont relativement petites et qui doivent aujourd'hui survivre dans un contexte qui est hyper violent et hyper polarisé.
Mais le réseau autour des personnes qui continuent à fournir des armes et un soutien politique à Israël n'est pas si grand que ça non plus. Donc, je pense que continuer à pousser pour la fin de cette complicité et une prise de responsabilité de nos dirigeants est beaucoup plus essentiel que de se poser la question comment est-ce qu'on peut laisser de la place à des gens qui se mobilisent déjà. Donc en tout cas, en étant assis sur une chaise à Bruxelles, je trouve que notre responsabilité à nous ici, c'est de continuer à garder nos yeux ouverts sur Gaza et à demander à nos gouvernements et à nos institutions qui sont financées par nos taxes de faire leur travail et de respecter le droit international et de mettre fin aux accords avec Israël qui ne respectent de toute manière pas le cadre légal des accords, en plus de ne pas respecter le droit international.
Oui. Ok, ben on va toucher tout doucement à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore ajouter ou raconter? Des appels?
Ah oui, bah donc là, je ne vais pas traîner vu qu'on se retrouve dans 5 minutes à la rue des Petits Carmes devant justement le ministère des Affaires étrangères pour demander une protection de toute la flottille qui a pour objectif unique briser le siège illégal de Gaza et d'attirer l'attention sur Gaza. Donc c'est une mission humanitaire civile de personnes pacifistes non violentes et on n'a toujours pas aujourd'hui de position suffisamment ferme de notre gouvernement pour la sécurité de cette personne et également pour prendre des dispositions fermes qui permettraient la fin du génocide. Donc, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes et moi, je serai là. Je vais aller très vite au rendez-vous suivant.
Oui, ça descend.
Oui, ça descend, ça va aller. Merci. Okay. Merci beaucoup, en tout cas.
Ouais, merci beaucoup, Astrid. Merci à vous aussi, chers auditeurs. Merci à Julie pour la technique. Et voilà, on sera de nouveau demain. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais ça va. Voilà, on verra bien.
Merci beaucoup.